VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, 11h à Bamako, le même temps en temps universel. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dimanche afin d'élire leurs députés, 3 semaines après le premier tour de la présidentielle. Contrairement à la présidentielle, ces législatives n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt auprès des électeurs tunisiens. 15 000 candidats sont dans la course pour 217 sièges au Parlement. Les grandes familles politiques menées par des luttes de pouvoir se présentent en ordre dispersé, comme pour la présidentielle du 15 septembre dernier. L'armée malienne a perdu 38 soldats dans l'attaque de 2 camps par des djihadistes en début de semaine, selon un nouveau bilan officiel communiqué jeudi soir et aggravant encore la sévérité du coup reçu par les forces gouvernementales. Le précédent bilan datant de mardi soir faisait état d'au moins 25 soldats tués et d'une 60aine portés disparus. Les forces maliennes ont repris les camps avec l'appui d'avions de chasse et d'hélicoptères de la force anti-djihadiste française Barkhane. 15 djihadistes ont été tués selon le gouvernement malien. En Côte d'Ivoire, condamnation hier à 5 ans de prison ferme de Jacques Mangoua, président du conseil régional du Béké et vice-président du PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. À Boaké, retrouvons la correspondance de Siriki Barreau.
La décision a été rendue par le tribunal de Boaké. L'homme était inculpé pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation administrative. Le 21 septembre dernier, plusieurs munitions d'armes de guerre et des armes blanches ont été découvertes dans l'une de ses résidences à Nguessankro, dans le département de Béoumi. Jacques Mangoua s'est défendu tout le long de ce procès qui a duré plus de 5 heures d'horloge de ne pas être le propriétaire des armes blanches et munitions retrouvées à son domicile. Malgré le plaidoyer de ses avocats, le procureur Brahima Bamba a fait un rapprochement entre les objets retrouvés et les affrontements interethniques qui ont eu lieu à Béoumi au mois de mai dernier. Des affrontements au cours desquels des armes de guerre ont été utilisées et où plusieurs personnes ont perdu la vie. Il a requis une peine d'emprisonnement de 5 ans, 5 millions de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. Peine confirmée par le président du tribunal. Ses avocats entendent faire appel de cette décision. Au cours du même procès, le chargé de mission, Amani Moïse, a également été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour divulgation de fausses informations dans les médias en rapport avec la présente affaire. Plus tôt dans la journée, des centaines de manifestants avaient réclamé la libération du prévenu devant le palais de justice. La situation a également dégénéré dans certains endroits, notamment à Djebonoa, localité située à une dizaine de kilomètres de Boaké, bloquant la route internationale sur l'axe Abidjan-Boaké. Siriki Barreau, Boaké, VOA Afrique.
L'ensemble des partis politiques du Bénin sont invités le 10 octobre à un dialogue politique avec le pouvoir en place, a annoncé jeudi la présidence béninoise. Le Bénin connaît depuis avril dernier une crise politique. Tous les partis ont été empêchés de prendre part aux élections pour élire les 83 députés, à l'exception de 2 qui soutiennent le président Talon. Ces derniers jours, des voix se sont élevées dans le pays pour mettre en garde le président contre une nouvelle tentative d'écarter les partis ne soutenant pas son action pour les élections municipales et communales prévues en mars 2020. Au Cameroun, 333 personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise anglophone recouvrent la liberté. Cette décision a été prise hier sur ordre du président Paul Biya à la veille de la clôture du grand dialogue national ouvert lundi à Yaoundé. Le point avec notre correspondant dans la capitale camerounaise, Emmanuel Gelinta.
Les bénéficiaires de cet arrêt de poursuite judiciaire avaient été interpellés pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils étaient encore en détention et poursuivis devant les tribunaux militaires. Le président Paul Biya a ordonné qu'ils soient libérés sans délai en guise de soutien aux assises du Grand Dialogue National qui s'achève ce vendredi, mentionne le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République publié à cet effet. Mais cette décision ne concerne pas le leader séparatiste anglophone Ayuk Tabe et ses 9 collaborateurs arrêtés au Nigeria, puis extradés au Cameroun avant d'être condamnés à perpétuité. Certains participants au Grand Dialogue National ont aussitôt réagi après la décision de libération de ces 333 détenus. Merci, Monsieur le Président de la République, pour cette décision qui touche tous nos cœurs et qui comble de joie tous les Camerounais, a écrit dans un tweet Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Cette décision est un acte personnel du président Paul Biya et non une résultante du grand dialogue national, a commenté pour sa part l'opposante Edith Kawala du parti CPP. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 3 ans, plus de 400 personnes ont déjà bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires devant les tribunaux sur ordre du président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Junta.
Nos infos sur voaafrique.com.
7h05 à Washington, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a invoqué aujourd'hui une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque, et ce, dans le but d'en finir avec une crise politique sans précédent. Nous pensons que la nouvelle loi aura un effet dissuasif sur les manifestants violents et émeutiers masqués et assistera la police dans sa mission de maintien de l'ordre, a déclaré Mme Lam lors d'une conférence de presse. L'Irak a vécu hier sa journée la plus sanglante depuis le début mardi de manifestations. 31 personnes ont été tuées dans des violences entre protestataires et forces de sécurité. Irénée Amanongo.
Parti de Bagdad, le mouvement réclamant des emplois pour les jeunes, le départ des dirigeants corrompus a gagné la quasi-totalité du sud du pays. Les autorités ont décrété un couvre-feu à Diwania et à Bagdad sans aucun effet. Hier, les blindés sont entrés en action dans la capitale pour faire reculer des milliers de protestataires. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles. La contestation a tourné en bataille rangée sur les principaux axes menant à la place Tahrir. Les manifestants assurent ne pas avoir de leader. Le mouvement est né sur les réseaux sociaux. Amnesty International a demandé aux autorités de Bagdad de cesser d'utiliser une force létale excessive, de rétablir la connexion Internet coupée dans une grande partie du pays et les réseaux sociaux toujours inaccessibles.
L'affaire ukrainienne, le parquet ukrainien a dit aujourd'hui réexaminer les dossiers liés au groupe gazier Burisma, un temps lié au fils de Joe Biden, au moment où le président américain Donald Trump est soupçonné de pression sur Kiev pour éliminer son rival démocrate. Nous faisons un audit des affaires dans lesquelles peuvent être impliqués Mikolaj Lochevski, ex-dirigeant de Burisma, Sergei Kourchenko, homme d'affaires ukrainien et d'autres, a indiqué au journaliste le procureur Ruslan Ryabushapka, soulignant cependant que ces dossiers ne semblent pas concerner le fils de Joe Biden. Ici même aux États-Unis, le président Donald Trump a publiquement invité hier l'Ukraine et la Chine à enquêter sur son adversaire démocrate Joe Biden, alors qu'une initiative identique lui a déjà valu l'ouverture d'une enquête du Congrès en vue d'une possible procédure de destitution. En réaction, le président démocrate de la Chambre du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a jugé que le locataire de la Maison-Blanche avait rompu son serment de président en demandant à la Chine d'enquêter sur Joe Biden. L'enquête devrait franchir aujourd'hui un nouveau cap avec l'audition à huis clos de l'inspecteur général des services de renseignement Michael Atkinson, qui a largement contribué à faire éclater l'affaire ukrainienne au grand jour. Présidentielle américaine, Bernie Sanders est sur pied après avoir subi la pose de 2 stents en urgence et prendra part donc au débat démocrate prévu le 15 octobre dans l'Ohio entre les candidats à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'épouse du sénateur du Vermont qui est âgée de 78 ans. Dans un communiqué, Jane Sanders a déclaré qu'aucune procédure médicale supplémentaire n'était requise et que son conjoint devrait quitter l'hôpital d'ici la fin du week-end. Nucléaire nord-coréen, Donald Trump a déclaré jeudi vouloir continuer les négociations avec la Corée du Nord sur le point de reprendre après des mois d'impasse malgré une nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles, pourtant qualifiés de provocation par Washington. Une équipe de négociateurs nord-coréens est arrivée en fin de journée jeudi en Suède où ces nouveaux pourparlers sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord devrait débuter d'ici la fin de la semaine prochaine. Ici à Washington, le département américain n'a pas, le département d'État n'a pas souhaité dire qui dirigerait sa délégation, ni quand et où auraient lieu les discussions. Et puis santé aux États-Unis, 18 personnes sont mortes des suites d'une mystérieuse maladie respiratoire liée à l'utilisation de cigarettes électroniques et d'autres produits de vapotage, ont rapporté les services de santé américains. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.